Au cinéma ce soir, je t'emmène.
Oh, ça, je peux pas.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc.
On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir.
Le cinéma ou la télé?
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Bonjour chers auditeurs RIS de Radio DC, bienvenue autour de cette table avec nous, avec vos oreilles. Nous sommes donc dans le cadre du festival du premier film d'Annonay, en présence aujourd'hui de Jean-Louis Gonnet, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous avons notre cher Frédéric Monod avec nous au micro.
Ne rajoute pas Maya, s'il te plaît.
Et donc, Jean-Louis, aujourd'hui, est là pour... il est cinéaste, donc il est présent au Festival du Premier Film en tant que cinéaste, mais aussi en tant que représentant de l'Acide. Et là, je vais passer le micro à ma collègue pour la première question.
Qui sait tout, ou presque tout, sur l'Acide, c'est-à-dire rien, puisque justement, c'est Jean-Louis Gonnet qui va nous expliquer tout ça. Et alors, ça m'a amusé déjà, en premier, Acide. C'est un acronyme, hein, ça veut dire Association du cinéma indépendant pour
sa diffusion,
voilà. Mais vous avez fait exprès que ce soit acide comme un citron ou alors c'est par hasard?
Écoutez, je n'étais pas là quand l'association a été fondée en 92. J'étais bien trop jeune. Pas vraiment, en fait. Mais effectivement, je pense qu'ils sont, ils sont un petit peu facétieux, hein, et on reste facétieux, d'ailleurs. On essaie de garder cet esprit-là. Effectivement, c'est l'idée effectivement, que ça soit un petit peu acide, un peu citronné. Et on a une déclinaison de l'acide. On fait beaucoup d'actions. Il y a l'acide pop, l'acide... on a le samedi sous acide aussi. Hein,
effectivement, voilà. C'est
donc
quand
on essaie de s'amuser un petit peu. L'idée, voilà. C'est quand même aussi de s'amuser dans
de
la vie.
S'amuser. Et alors, ça tombe bien parce que l'adresse de l'acide à Paris, c'est rue Parodi. Ça aussi, je me suis dit, mais il n'invente pas.
Non, on a toujours été là, effectivement, rue de Parodi, dans le 10e, un quartier qui était populaire parce que Paris bouge beaucoup aussi aujourd'hui. Mais c'est un quartier qu'on aime beaucoup et on est regroupé avec d'autres associations qui partageons un local commun.
Et alors donc l'Acide, cette association du cinéma indépendant pour sa diffusion, justement, c'est une association, un réseau qui s'est constitué pour promouvoir le cinéma indépendant et puis surtout l'accès de tous à l'image. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus le fonctionnement de cette association et son objectif?
Alors ça va être une longue réponse.
Mais j'y compte bien. Développer.
En fait, l'Acide s'est créé sur une idée très simple, c'est que à une époque, certains cinéastes, donc début des années 90, se sont rendus compte que leurs films n'avaient pas accès aux salles. Je vais pas faire le mode d'emploi du cinéma, mais on a un producteur, on a un distributeur, un exploitant. Effectivement, tout d'un coup, il y avait un endroit où le lien n'était plus fait. Ils se sont dit, il faut inventer quelque chose qui sera un moyen de garder le lien ou de retrouver le lien entre le distributeur et la salle. Donc ils ont fondé l'Acide et dans l'idée effectivement de trouver des moyens pour que ces films-là accèdent aux écrans. Donc ils ont mis en place des idées qui sont toujours là d'ailleurs, hein, on n'a pas évolué de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a deux grosses actions, hein, qui sont dans le soutien des films. Un soutien dit classique, qui est en fait des films que l'on visionne le fameux samedi sous acide une fois par mois, où on choisit des films, il faut choisir, hein, évidemment. On ne peut pas aider tous les films. Et ces films-là doivent avoir déjà un distributeur. Et donc on accompagne ces films-là dans des... on a un réseau de salles maintenant qui s'est développé en presque 30 ans, de 300, je crois, à peu près aujourd'hui. Qui permet effectivement d'accompagner ces films. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis là à Annonay aujourd'hui pour accompagner deux films, hein, Acide. Je viens de présenter Dans la terrible jungle, des Terrible Girls, Amblin et Caroline, qui ont été choisis cette année pour le Festival de Cannes.
On va en parler.
Voilà, on va en parler après. Voilà. Et effectivement, Fun de Vote ce soir à 21h. Très beau film américain. Et après, effectivement, l'Acide a eu le Grand Prix de Deauville, On en parlera peut-être aussi. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y a cette aide dite classique. Et on a la deuxième partie, la deuxième tranche, qui est en fait le... Au début, c'était la vitrine. Hein. C'était donc une petite programmation à Cannes, de 9 films, un peu perdus, un peu noyés au milieu de l'officiel, la quinzaine, la semaine de la critique. On était le petit pousset, un peu le, on va dire le off du festival de Cannes. Et donc, effectivement, depuis maintenant 5 ans, cette programmation, elle a un petit peu le vent en poupe. Hein. On a des films qui sortent finalement un peu du lot. Et finalement, je pense que tout le monde... en tire profit quelque part. Hein, les films sont exposés. Et le principe de la programmation, c'est justement d'aller, d'aller fouiller, d'aller chercher dans des endroits qui ne sont pas les, comment dire, les grands réseaux de fabrication de films. Hein. Par exemple, on parlera des films, des deux films pour lesquels je suis là, qui sont des productions très particulières.
Tout à fait. Mais j'aurais moi une petite question, juste du coup, qui on trouve au sein de cette association principalement ? Des cinéastes
C'est une association qui existe depuis 92. Hein,
92, c'est ça.
Vous l'avez dit,
ouais.
Peut-être. Et donc, ça fait quand même un petit paquet d'années. Et qui, effectivement, s'est fondée sur, le, sur un rassemblement de cinéastes. Mais comment, à l'heure actuelle, qu'est-ce que...
C'est toujours des questions qui sont... qui sont d'actualité tous les ans, comme on renouvelle le cheptel de cinéastes, parce que c'est bénévole, hein, on est bénévole. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est une grosse centaine de cinéastes adhérents, d'actifs, une petite vingtaine. Quand je dis actifs, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration de 14 personnes. Il y a des groupes de travail, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'actions qui sont... Par exemple, sur le jeune public, hein, on travaille sur... vient d'inventer un truc qui s'appelle l'acid pop, une sorte d'université populaire autour de certains films. Donc on démarre là vraiment, c'est la première année. Donc voilà, donc on fonctionne comme ça. L'équipe, il y a une équipe de permanents. Hein, maintenant, on doit être une 8-9, je pense, qui eux sont des salariés. Mais les cinéastes ne sont pas salariés. Ils œuvrent pour la bonne cause.
Et pour la bonne cause du cinéma indépendant.
Exactement.
C'est quoi le rôle du cinéma indépendant dans l'ensemble du paysage cinématographique ? C'est un rôle social, c'est un rôle artistique, c'est les deux, c'est tout, c'est...
Bon, c'est un peu tout ça. On s'inscrit quand même à un endroit qui est quand même assez singulier, ne serait-ce que par le type de production des films. Hein. On n'est pas les films que l'on choisit. On ne les choisit pas parce que... ils coûtent pas cher parce qu'ils sont bons, mais effectivement souvent ils coûtent pas cher. Donc il y a une espèce d'interaction comme ça entre les deux.
Oui, parce qu'il y a peut-être pas non plus de quoi les finir. Enfin, ça coûte pas cher. C'est pas parce que ça coûte pas cher qu'ils sont bons, et c'est pas parce qu'ils sont bons qu'ils coûtent pas cher. C'est par la force des choses qu'ils coûtent pas cher, mais il faut pouvoir avoir les financements. C'est pas une raison pour promouvoir un cinéma pas cher. Quoi.
Voilà, exactement. Non, on va pas chercher. On fait le constat parfois. On se dit tiens, en fait, on demande des listes. Des films qu'on a aidés. Je dis, tiens, en fait, ça a coûté combien ces films-là ? On regarde, effectivement, on voit qu'on est dans une fourchette très basse. On n'est pas dans des films... quand on a un film qui a été produit pour 1,5 million d'euros, ce qui est peu d'argent pour le cinéma, ben, c'est très, très rare. Hein. On est largement en dessous de ça. Quoi. On parlera, effectivement, des films...
Des deux films qui sont présents au festival.
Ça coûte très peu cher. Quoi.
Et alors justement, du coup, ça représente combien de films par an ? Parce que là, j'ai juste noté quelques titres dont moi j'ai entendu parler. Donc il y a Avant l'aurore, Thunder Road, Nous les Coyotes, Dans la terrible jungle et un documentaire de Yolande Zoberman. Enfin voilà, et d'autres à venir, j'en passe. Mais du coup, annuellement, ça représente combien de films à peu près qui sont soutenus, poussés par l'ACID ?
Rentrant, on va dire une quinzaine de films tous les ans. Mais l'exploitation, elle dure sur 2-3 ans. C'est-à-dire que, par exemple, Avant l'aurore, c'est un film qu'on a pris pour Cannes il y a 3-4 ans. Bon, il y a eu un peu des déboires de production, on va dire. Mais donc, ça a un peu traîné. Mais le film, on l'accompagne depuis 2 ans. Parce que les salles demandent. Hein, et donc, du coup, le travail de continuité continue à se faire. Hein, donc, on se retrouve à Bayonne ou à Lons-le-Saunier ou à Nonnet ou à Aubenas présenter ces films-là qui durent sur plusieurs années.
C'est aussi l'intérêt de votre soutien de pouvoir faire durer un film un petit peu longtemps dans les salles.
Voilà, exactement. Donc on a ça, un travail de continuité qui est important. Ouais.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une course assez incroyable de pouvoir rester dans les salles, au nombre d'entrées, des choses comme ça. Enfin, je n'ai pas toutes les codes en main, mais...
C'est assez terrifiant, hein, pour être franc.
C'est quand même un jeu de
massacre. Hein. C'est-à-dire que si le dimanche soir, tout d'un coup, les chiffres des 3 premiers jours ne sont pas bons,
mercredi,
on passe à la trappe. Lundi matin, on dégage. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est un vrai, vrai souci et qui remet en cause beaucoup l'économie. Alors c'est très contradictoire ce qu'on voit qu'effectivement, quand on lit les chiffres du CNC, les entrées en France cette année sont très bonnes, plus de 200 millions, c'est une des meilleures années depuis...
Mais pour voir quel film.
Et voilà, après effectivement, nous des fois, on se dit, bah, sur un film... Enfin, on ne dit pas petit film, on dit film fragile, nous, c'est plus...
Il n'y a pas de petit film.
Pas de petit film. Mais finalement, on se dit, bah, si on met au prorata du nombre de salles, enfin d'écran plutôt, pardon, parlons en écran, par film, souvent on fait des meilleures entrées qu'un gros film.
Oui,
voilà, si donc, on... voilà, tout d'un coup, bah, on a une salle qui fait 30, 40, 50 personnes par séance, et c'est mieux qu'un gros machin. Alors, effectivement, il arrose sur 400 écrans. Hein, nous, on est limité. Hein. On se limite à 40 écrans. C'est un peu une règle d'entrée pour les films.
À 40 écrans 40 par écrans. Film
Par film, ouais. Donc, c'est un peu... Bon, ça se joue un peu. On n'est pas...
Oui, vous n'êtes pas avec la calculette.
La calculette, s'il y a 14 écrans, Terrible Jungle, c'est 18, je crois, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. J'étais en train de chercher les chiffres pour basculer justement sur... parlons de ces deux films qui sont présents au festival du premier film à Annonay. Donc, il y a Thunder Road, justement, qui est sorti au mois de janvier. Je cherchais la date, mais je ne l'ai pas retrouvée.
C'est oui, c'est ça, je crois, début janvier. Non.
Peut-être un peu plus tard, c'est 30 janvier, quelque chose comme ça.
C'est plus tôt. Enfin, c'est pas grave. C'est pas...
Enfin, il est sorti, quoi.
Oui,
sorti,
c'est peut-être même 2018, effectivement.
C'est même 2018, oui,
vous avez raison.
Ouais.
Et alors, comment il a fonctionné, celui-ci? Alors, c'est un film très surprenant, mais je crois que vous proposez principalement des films qui sont surprenants, dans tous les sens du terme, positivement, évidemment, mais voilà, qui sortent des lignes habituelles de ce qu'on va voir, ou voilà, qui proposent quelque chose qui a un peps particulier, un angle particulier, qui... On s'attend à un film, un genre, et puis en fait, c'est pas vraiment ça qui se passe. Voilà, et ben, ils rentrent bien, je trouve, dans ces catégories. C'est un point de vue personnel, mais je veux bien vous entendre en parler.
Alors, Thunder Road, bon, moi j'ai eu la chance de faire la programmation de Cannes depuis 2-3 ans. Effectivement, je fais partie de ce qu'on appelle le groupe Zéro, qui est le groupe qui voit tous les films. Et donc, quand on tombe sur un film comme celui-ci, l'effet de, je ne vais pas dire sidération, parce que le mot est peut-être un peu fort, mais tout d'un coup, de grandes surprises. On se dit, ah oui, mais ça, on n'a pas vu ça. Qui a fait... Les 10 premières minutes du film, on est assis, quoi. C'est un truc... personne n'a vu ça, quoi. Et donc, on se dit, ah oui, là, quand même, il y a quelque chose où quelqu'un essaye de sortir un peu des sentiers battus, de la narration. Bon, le film est assez classique, quand même, au bout du compte, hein. Mais il y a des moments qui sont quand même assez sidérants. Et nous, on aime ça. On aime, justement, les cinéastes qui vont... moi, je suis cinéaste, hein, je sais de quoi à peu près je parle. C'est vrai qu'on voit bien que pour financer un film, il faut répondre à beaucoup d'exigences, hein, mais exigences qui sont données par les financeurs. Du producteur aux aides régionales, CNC, ministère, et j'en passe. Et donc, normalement, les scénarios sont assez lisses. Et ça, on le voit tout de suite quand on fait les programmations Cannes. On les voit arriver, les films. Le cinéma français aujourd'hui pâtit de ça, hein, de beaucoup de scénarios. Des gens qui filment bien, qui écrivent bien, mais on voit bien que tout d'un coup, il n'y a plus aucune prise de risque. Et nous, ce qui nous intéresse, bah, finalement, c'est on se dit, bah, allez, rigolons un petit peu.
C'est
l'acidité. Bah, on va prendre un truc où ça part un petit peu ailleurs, quoi. Voilà, donc, oui, pardon, effectivement, pour répondre à votre question,
Thunder Road,
il est sorti, ben, on a vu le film. Alors, il est arrivé un peu par la bande, parce qu'on avait eu un cinéaste qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Patrick Wang. On a pris deux de ses films, enfin maintenant trois, qui est également américain, hein, ses films américains aussi, mais indépendant, hein, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans le
mainstream.
Ah,
mais...
ouais, non, pas du tout. Et même s'ils sont quand même... Jim Cummings, le cinéaste de ce soir, il fait des pubs, enfin il est dans le métier. Hein. Patrick Wang, il est diplômé de MIT, financier, enfin voilà, c'est des gens qui ont des parcours très étranges, enfin américaines quoi. Et donc c'est par Patrick Wang qu'il est arrivé là, Jim Cummings, et du coup quand on a vu le film, sans piston, rien, on s'est dit, ah ben oui. Et voilà, le film est arrivé, il a été programmé à Cannes. Et là, tout le monde s'est dit, ah oui, quand même. Et là.
Donc il a une belle vie un peu.
Un buzz, et derrière, il est pris à Deauville. Au festival américain, et il se chope le Grand Prix. Et donc, tout le monde se dit, ah oui, hein, et bon, voilà, c'est une vie, et il sort en salle. Bon, c'est pas des entrées mirifiques, hein, je crois que c'est 100 000 entrées, hein, c'est pas... Mais sur des films qui n'ont pas beaucoup de promos, parce que ce qui coûte cher aujourd'hui pour sortir un film, c'est de payer toute la partie promo, hein, les affiches, les bandes-annonces, La presse, voilà, tout ça coûte
le
de
suivi,
l'argent.
Le suivi,
ouais, coûte beaucoup d'argent. Donc
mais on a... Radio d'ici, on est gratuit.
Ah, voilà, bon, c'est bien.
Bon, en tout cas, allez voir ce film, vraiment.
Oui, c'est très surprenant. Ouais, c'est un film... c'est-à-dire que tout d'un coup, toute l'image qu'on a... alors, en deux mots, hein, c'est un policier d'Austin aux États-Unis,
Texan,
voilà,
oui.
Qui... c'est l'opposé des policiers qu'on voit d'habitude, aussi bien à la télévision qu'au cinéma.
Il n'est pas lisse, ouais, ça c'est sûr.
Il n'est pas lisse du tout, il pleure, enfin voilà, il a des états d'âme. Et donc, c'est un mélange d'émotions, y a de l'humour, il y a de l'émotion. Enfin, c'est ce mélange-là, et tout d'un coup, même Jim me disait un jour, mais même quand j'ai croisé des policiers qui ont vu le film, ils m'ont dit merci de nous donner cette image de nous, finalement, parce que finalement, on n'est pas que des. Parce qu'aux États-Unis, hein, quand on parle de flics, on les voit sortir leur arme et tirer, quoi. Donc.
Non, mais là, c'est vrai qu'en plus, ce personnage, cet acteur, même Jim Cumming, hein, qui est aussi le réalisateur, donc il est vraiment impressionnant à l'écran. Enfin, il capte l'attention, voilà, il a une capacité à changer de visage. À changer d'émotion, enfin, c'est un ascenseur, c'est très difficile à suivre. Voilà, on cherche sa place quand on est face à lui. La distance est toujours un peu spéciale. Enfin, c'est vraiment.
Je dis que c'est un peu le nouveau Cary Grant, mais voilà, c'est que. Il y a quelque chose. Je pense que sans doute c'est quelqu'un qui va faire une carrière de cinéaste. Peut-être plus classique, on va dire. Enfin, j'en sais rien, mais je sais qu'il prépare un film de science-fiction, là. Ça n'a rien à voir, hein, mais là, effectivement, sur ce film-là, il a tout fait. Il a écrit le film, il l'a joué, mis en scène, monté et fait la musique. Donc
oui,
c'est une sorte de...
Complé, ouais.
C'est Charlie Chaplin, quoi.
C'est pour ça que le film était peut-être pas cher.
Oui. Mais il l'a financé, avec une sorte de crowdfunding, hein,
oui.
Dans le monde entier, en envoyant des mails. Et les gens, ils vendaient 1% du film.
Financement participatif, voilà, crowdfunding. Bon, malheureusement, il nous reste peu de temps, alors il faudrait quand même qu'on parle de Dans la terrible jungle, parce que c'est quand même un film incroyable. Voilà, là, c'est...
Même la bande-annonce est incroyable.
J'aurais du mal à le définir, honnêtement. Je préférerais vous laisser faire. Ce que j'ai observé, moi, c'est que c'est quand même un film qui est quasiment 100% réalisé par des femmes. Voilà, j'ai souligné cette chose.
De 100%, ce sont deux. Donc
Oui, mais aussi la monteuse, j'ai noté,
monteuse,
Juliette Grimond,
Anne-Catherine Witt,
Céline Pérard. Ouais. Voilà, je me suis dit, bon, ben voilà, en parcourant quand même rapidement la feuille de route un peu du film, je me suis dit, ouais, réalisation très féminine. Voilà, on est plongé dans un centre d'éducation pour personnes portant des handicaps.
Oui, c'est un IME, en fait, Institut médico-éducatif. Bah, Omblin et Caroline sont deux terribles girls, hein, qui sont filles, je vais dire, voilà, bon, qui viennent des arts déco. Donc, elles n'ont pas une démarche de cinéaste classique au départ. Hein. Elles sont musiciennes également. Et en fait, dans ce cadre-là, elles se sont retrouvées dans cette IME, qui a particularité, effectivement, d'accueillir des résidences d'artistes. Et elles avaient une caméra avec elles, et les adolescents lui ont dit « Ah bon, t'as une caméra, pourquoi ?»« Ben, pour filmer. Eh ben, on peut faire un film. Ben, d'accord, si vous voulez. Par contre, c'est vous qui vous racontez l'histoire. » Et donc, elles ont passé une espèce de contrat avec ces enfants, qui sont pour la plupart lourdement handicapés, de trouver une façon de raconter leur vie.
Ouais,
et donc c'est l'opposé de tout ce qu'on voit d'habitude en documentaire. Moi, je sais que des amis documentaires n'aiment pas le film parce qu'il n'est pas classique du tout dans la démarche, dans l'approche.
Mais j'aurais même eu du mal à dire que c'est un documentaire ou une fiction complètement, c'est-à-dire qu'on est pile entre les deux. Une recherche au quotidien de ce que vivent les gens, mais on est dans le fictionnel de raconter via une caméra une histoire des gens qui vivent ensemble dans ce lieu.
Oui, mais ce sont les gens qui la racontent, c'est aussi...
En fait, ce n'est pas du point de vue des adultes. Hein, c'est-à-dire qu'on est toujours du point de vue des adolescents. Donc, ils racontent leur vie à leur façon. Hein, c'est eux qui proposent les idées. Et c'est les Omblin et Caroline qui ont mis en scène. Donc, effectivement, on est... Omblin me disait l'autre jour, j'en ai eu marre, au bout d'un moment, on attendait des heures qu'il se passe quelque chose devant la caméra. Au bout d'un moment, on dit, allez, inventez quelque chose. Et donc, ils inventaient et ils filmaient. Elles filmaient. Par contre, elles ont jeté 97,6% de ce qu'elles ont filmé. Hein, donc il y avait beaucoup de déchets. Il ne faut pas non plus imaginer qu'une idée...
Mais ils ont pris la caméra et tout était bon.
Et tout va bien. Quoi. Non, elles ont tourné pendant un an, à raison d'une semaine ou deux par mois. Voilà, donc c'est un vrai travail de longue haleine.
Mais je lisais qu'elles ont récupéré énormément de matière et qu'elles étaient parties sur l'idée de faire un court-métrage et qu'en fait, elles ont construit un long-métrage parce qu'elles ont eu énormément de matière. Parce que j'imagine bien que la posture de « on prend une caméra, on va dans un IME, on fait une résidence, d'un seul coup, on partage avec des gens la construction d'un scénario, d'une histoire qu'on raconte, et en plus, par le prisme de l'adolescence et de ce que vivent les gens, ouais, ça amène vers autre chose. J'imagine bien qu'elles sont parties d'un point, aller vers un autre.
Ah oui, c'est vraiment typiquement ce genre de production singulière. Hein. Oui, effectivement, au départ, il n'y a pas d'argent. Elles avaient un RSA. C'était ça leur bande-annonce au début, hein, quand on avait pris un RSA, une voiture et une caméra. Hein, donc effectivement, c'était les trois conditions pour démarrer le film. Elles ont commencé à tourner comme ça, puis au bout d'un moment, elles se sont dit « Ah tiens, il y a peut-être un truc ». Et nous, on aime, enfin, moi, je sais que j'aime ce genre de démarche aujourd'hui, où finalement, on sort totalement des sentiers battus. Nous, pour faire un film, on vous demande d'écrire un dossier de 40 pages, de 70 pages. Il faut que tout soit écrit en documentaire. Comment écrire des choses qui vont se dérouler? Pas forcément comme on vient de les voir en repérage. C'est quasiment impossible. Donc, finalement, là, elles écrivent le projet, le film, au fur et à mesure des choses. Après, elles ont trouvé, elles ont du jus, de l'énergie, des idées. Elles ont trouvé une productrice, parce que c'est aussi une productrice, donc c'est vraiment beaucoup de femmes. Hein, et donc Anne-Catherine Witt, qui est une très bonne productrice, a trouvé un peu d'argent et un peu d'argent. Et peu à peu, elles sont rentrées, je dirais, dans le système professionnel. Hein, et c'est devenu un film.
Et donc vous, quand vous avez vu ce film, vous avez tout de suite dit bingo, on prend...
Alors moi, oui. Moi, oui, j'ai dit bingo. Ça, c'est quand même... C'est tout bon pour nous, quoi. Et par contre, il faut que je me bagarre un peu avec d'autres qui étaient moins convaincus parce que, justement, une idée de documentaire plus installée, enfin, je dirais plus classique. Je ne vais pas dire plus plan-plan parce que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui bossent très, très bien. Mais tout d'un coup, on n'avait pas ce regard-là, quoi. On n'a jamais ce regard-là et on est dans autre chose. Le lieu n'est pas très beau. Hein. C'est un IME années 70 avec des bâtiments...
Un peu quelconque.
Fonctionnel.
Mais elles ont travaillé avec des choix très forts. Par exemple, elles tournent beaucoup en fin de journée. Donc avec leur magique, hein, c'est-à-dire
la lumière
du soleil couchant. Tout est un peu sublimé comme ça. La caméra est toujours à distance. Parce que c'est très compliqué de filmer des enfants handicapés hein, quand ils sont aveugles ou... Il y en a un petit Médéric, il est sur un fauteuil, enfin très très handicapé. C'est le plus drôle de la bande. Hein.
Il est dans la bande-annonce.
Il est dans la bande-annonce. Voilà, c'est lui. Elles ont construit la bande-annonce autour de Médéric, hein, et qui se raconte des histoires tout le temps, quoi. Et Médéric, ben c'est un fauteuil électrique. Enfin, on voit qu'il est très dépendant de la machine, quoi. Et voilà. Donc elles ont fait de ça quelque chose qui est très singulier, quoi. Je ne sais pas si on peut faire deux fois le même film comme ça. C'est quasiment impossible, quoi.
Ouais, elles sont parties quand même avec des contraintes très fortes. Mais avec une liberté aussi beaucoup plus.
Et celui-ci est sorti très récemment, là, hein, c'est hier. Ça, 6 février.
Ah hier.
Non, carrément.
Hier soir. Avant-hier soir, il y avait l'avant-première. Ouais.
Donc, l'avant-première à Annonay, voilà, dans le festival.
Ouais, bah, je l'ai présenté il y a une heure, donc voilà, ça démarre. Hein.
Bon, eh ben, on va.
Il repasse demain. Il repasse demain, je crois, ou après-demain, je sais pas.
On va souhaiter surtout. En direct, mais.
Oui, voilà. On va souhaiter une longue vie à ce film, surtout.
Et puis à l'acide, et puis voilà, que ça continue cette aventure, parce que c'est passionnant, et les films que vous proposez sont souvent géniaux. Donc voilà, que ça prolifère même, j'ai envie de dire, et que vous sortiez plein de films.
Et que l'acide reste corrosif dans le monde du cinéma.
Ça, il n'y a pas de problème, je crois qu'on est assez corrosif.
Vous êtes au top.
Voilà.
Et vous êtes sur quel projet, peut-être on
alors
peut
moi,
finir
oui, là-dessus oui, merci, c'est gentil.
Oui, quand même.
Ah, je suis cinéaste, je fais des films, oui. Oui, il essaye, en tout cas. Je tourne actuellement, je suis documentariste plutôt. Je tourne deux films. Alors justement, c'est assez drôle parce que j'ai commencé un film, avant d'avoir film de Caroline et d'Omblin, un film sur un lycée, qui s'appelle l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, à Paris, qui est un monument du 19e siècle, avec un atelier théâtre. Alors, c'est pas la musique, c'est le théâtre. Dans ce cadre-là, des élèves d'option théâtre. Et j'en tourne un deuxième, que j'ai commencé il y a 3-4 ans, Burkina Faso. J'ai un ami qui remonte une salle de cinéma. Oh, c'est dévasté, hein, en Afrique. Là, il n'y a plus de salle de cinéma depuis une vingtaine d'années. Alors, on sent bien que c'est un peu naissant. Et donc, ils ont trouvé des fonds pour racheter un lieu qui était un cinéma en plein air. Et ils remontent le cinéma. Et là, il y a le FESPACO, donc le fameux festival africain qui a lieu à Ouagadougou, au Burkina aussi. Et il y aura une reprise. Donc il y a une salle qui est déjà quasiment construite, presque finie. Et donc voilà, je ne raconte pas l'histoire du béton, mais je raconte plutôt l'histoire du quartier qui est autour, avec tous les gens qui vivent, qui ont vécu le cinéma d'avant, la génération qui attend, et puis la celle qui arrive, qui piaffe d'impatience pour aller au cinéma.
Fantastique. Voilà. Et ben, on sera ravis de parler de votre documentaire sur les ondes de Radio DC, parce qu'on a aussi une émission cinéma qui s'appelle Les Toiles DC, que vous pouvez suivre sur les ondes de Radio DC. Merci beaucoup Jean-Louis Gonnet, et merci Frédéric.
Merci beaucoup.
Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.